La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ notre Sauveur et notre Frère. Ainsi, nous n'avons rien à plaider, rien à prouver. Nous n'avons pas à nous disculper, ni à nous justifier d'être vivants. Au-dessus des mots maladroits, des raisonnements qui peuvent tromper, nous pouvons être simplement tels que nous sommes et être accueillis, recueillis, reconnus et acceptés. Alors, bienvenue à vous tous qui êtes ici présents, à vous qui êtes présents au loin. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, accorde-nous ton esprit. Quand il nous accompagne, quand il nous rassemble, même dans l'incertitude des événements, la lumière et la vérité brillent. Que ton esprit renouvelle notre regard, notre pensée, notre volonté. Alors, comme tes enfants, nous accepterons la vie. Amen. Nous levons pour chanter le premier spontané. Nous restons debout pour louer l'Éternel avec ce texte inspiré du psaume 23. Berger des sources, berger d'espace où je renais, berger de l'être, sous ta garde rien ne manque. Au vert pâturage, aux champs de justice, aux eaux vivantes de la paix, ton amour nous conduit. Dans les ravins d'angoisse, dans les ténèbres de la vie, dans les écroulements de la mort, ta main nous relève. Berger de l'être, sous ta garde, rien ne manque. Tu dresses la table de la joie, tu multiplies le pain ami, tu mets un parfum de fête à tout bonheur qui se crée. Tu es l'Amen qui ensemence le champ de ma mémoire, tu es l'Amen qui habite la durée de mes jours. Berger des sources, berger d'espace où je renais, berger de l'être, sous ta garde, rien ne manque. Amen. Et c'est un autre psaume que nous allons chanter ensemble, le psaume 19. Nous le chanterons en entier. Le ciel étincelant.
«
Prenez place. Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ces quelques versets de l'évangile de Marc. C'est Jésus qui parle. Le premier commandement, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. » Le second, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière de confession. Éternel, l'amour dont tu nous aimes ne connaît pas de frontières. Pardonne-nous les murs que nous élevons entre nous, des murs de classe, de tradition, d'origine, des murs qui étouffent l'amour dont nous sommes capables. Éternel, ta générosité ne fait pas de tri, tous et toutes en sont bénéficiaires. Pardonne-nous pour nos jugements hâtifs et nos idées reçues qui écrasent la bonté dont nous sommes capables. Éternel, ta justice n'est pas destinée aux seuls justes. Pardonne-nous pour nos étroitesses d'esprit, nos ignorances et nos négligences qui aveuglent la conscience dont nous sommes pourvus. Pardonne-nous quand nous n'aimons pas la vie que tu renouvelles en nous, pour nous. Amen.
Thank you.
invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. Oui, quand l'Éternel donne, c'est sans condition et c'est sans compter. Et là où nos cœurs sont endurcis, il donne un amour nouveau. Là où nous nous sentons blessés, comme là où nous avons blessé, il donne le pardon. Là où nous cherchons un socle pour notre existence, il donne la justice. Là où nous sommes prisonniers de nous-mêmes, il donne la joie et la liberté de son esprit. Là où nous sommes usés et fatigués, il donne la vie nouvelle dans le Christ vivant. Il nous la donne en abondance. Grâce soit rendue à Dieu. Et je vous invite à chanter au cantique 212 « Mon Rédempteur est vivant ».
De lire la parole de l'Éternel, nous prions. Toi qui as parlé face à face avec Moïse et qui fit crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes et murmurer la sagesse des proverbes, Dieu vivant, qui a mis la louange dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre. Toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Saint-Esprit, que dans ces paroles humaines se lève ta parole pour nous. Amen. Nous lisons dans le livre du prophète Habacuc, du verset 1, verset 12, du chapitre 1, verset 12, au chapitre 2, verset 4. Donc c'est dans la feuille imprimée. Alors, il s'agit d'un dialogue. Donc, du verset 1 à 12 au verset 1 à 17, c'est le prophète qui parle. Et à partir du chapitre 2, donc les quatre versets qui suivent, c'est Dieu qui parle. N'est-ce donc pas toi qui es depuis les prémices, Éternel, mon Dieu, mon sacré, tu ne meurs pas. Éternel, tu as mis l'agresseur pour juger, mon rocher, tu l'as affermi pour condamner. Mais tes yeux sont trop purs pour contempler le mal. Tu es incapable de fixer la souffrance. Pour quelle raison observes-tu les perfides? À quelle fin demeures-tu donc en silence, quand le méchant engloutit plus juste que lui? Tu rends les humains tels les poissons de la mer, tels des bêtes rampantes sans direction. L'agresseur les fait tous monter à l'hameçon, il les tire avec son filet, les prend dans sa nasse, et puis le voici dans la joie et l'allégresse. Ensuite, il offre un sacrifice à son filet et il fait consumer de l'encens pour sa nasse, car par eux, sa portion est devenue grasse et son aliment est désormais abondant. Va-t-il maintenant pouvoir vider son filet pour encore tuer des peuples sans pitié? Je reste debout à ma station de guet, je tiens position dans mon retranchement pour voir ce que l'Éternel doit me déclarer et quelle réponse il donne à mon plaidoyer. Et l'Éternel me répond, et il me déclare, « Écris une vision, grave-la sur des tables, de sorte qu'on puisse la lire sans effort. Car la vision est pour un temps à venir, elle aspire à son terme, et elle ne ment pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra. Oui, elle viendra. » Elle ne tardera pas. Voici, l'âme du méchant est vaine et tordue, mais le juste, par sa fidélité, vivra. Parmi les trésors de la Bible hébraïque, le livre d'Habacuc est l'un des mieux cachés. Il ne fait pas partie du hit parade des livres prophétiques. Ce n'est ni le livre le plus cité, ni le plus commenté. D'habitude, il est sagement rangé, plus ou moins visible, dans l'ensemble qu'on appelle les 12 prophètes, et qu'on affuble souvent du titre bien trompeur des 12 petits prophètes. D'ailleurs, arrêtons-nous sur ce nom, Habacuc, Habacuc en hébreu. C'est un nom qui sonne aussi étrangement en hébreu qu'en français. Il n'est pas possible d'en préciser l'étymologie sur la base d'une racine hébraïque. L'opinion la plus répandue aujourd'hui est qu'il s'agit d'un prénom d'origine étrangère, possiblement emprunté à l'acadien, la langue des empires assyriens et babyloniens, les superpuissances de l'époque. Si c'est le cas, notre prophète est donc soit d'origine étrangère, soit il a hérité d'un prénom emprunté à la puissance culturelle dominante de son époque, comme l'on donnerait à son fils aujourd'hui un prénom tiré de la dernière série télé à la mode. En l'état, il nous est impossible de trancher ce point. D'ailleurs, de peu d'importance. Car le propos du livre d'Habacuc n'est pas tellement de nous parler d'Habacuc. Il s'agit là d'un livre biblique assez singulier. Il est court, il est ramassé, sans fioritures. Habacuc n'est pas un prophète comme les autres. Voyez-vous, être prophète pouvait être un métier assez facile à cette époque-là. Les prophètes et les voyants former une catégorie socio-professionnelle plutôt bien considérée, le plus souvent rattachée aux temples royaux et au centre du pouvoir politique. On ne s'en sortait pas trop mal si l'on se contentait de dire ce que l'on attendait de vous en faisant le job sans trop faire de vagues. La Bible nous offre bien des exemples de ces prophètes de métier qui adressaient au roi et au peuple, au nom du divin, des paroles flatteuses et rassurantes. Pas une parole de travers ne sortait de leur bouche, aucune dissonance ne venait perturber l'harmonie factice de leurs oracles, aucune parole désobligeante n'était émise à l'encontre des puissants ou de l'opinion dominante. Or, Habacuc n'est pas de cette trempe. Quelque chose semble le tourmenter, et il ne compte pas tourner autour du pot pour exprimer le fond de sa pensée. Évitant tout salamalek inutile, son livre démarre par cette adresse à Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur ? J'ai appelé à l'aide et tu n'as pas entendu. J'ai crié vers toi, violence, et tu n'as pas secouru. Pourquoi me montres-tu l'iniquité ? Et comment peux-tu contempler l'injustice ? Face à moi, il n'y a que violence et dévastation. L'inimité et la discorde progressent. Aussi, la loi est-elle affaiblie et la justice est devenue passagère. Le méchant assiège le juste et le jugement sort déformé. Voilà un prophète original. Au lieu de rassurer, il inquiète. Au lieu de courtiser, il critique. Au lieu de complimenter, il blâme. Et pas n'importe qui. Son reproche s'adresse tout simplement au roi des rois, au juste suprême, à Dieu lui-même. Habacuc en avait décidément gros sur le cœur. Et comment lui donner tort ? Ce qu'il décrit demeure aussi valable pour son époque que pour la nôtre. Il suffit d'ouvrir les yeux pour contempler le spectacle déplorable et omniprésent de l'injustice et de la violence. La loi des hommes est mise au service des plus puissants. Quant à la loi de Dieu, elle est érigée en épouvantail, ou pire, en arme pointée contre notre prochain, celui-là même qu'elle nous exhorte à aimer comme nous-mêmes. La réponse de Dieu ne se fait pas attendre. Il a un plan. Il prépare quelque chose d'extraordinaire. Dieu va susciter les Babyloniens, dont les armées sont décrites par des traits terrifiants, pour venir semer la terreur et la désolation, là où les méchants se croyaient en sécurité. L'injuste sera percé d'une pluie de flèches, décoché d'une terre lointaine par une main puissante. La punition sera donc à la mesure du crime. Habacuc aurait pu se contenter de cette réponse et retourner vaquer sagement à ses occupations. Mais non. Vous l'aurez compris, Habacuc est du genre têtu. Car il perçoit bien le problème d'une telle réponse. Elle exprime sans embâge. Il dit : pourtant, tu as les yeux trop purs pour voir le mal. Tu es incapable de fixer la souffrance. Pour quelle raison observes-tu les perfides ? À quelle fin demeures-tu donc en silence, quand le méchant gloutit plus juste que lui ? Et plus loin, tu rends les humains tels les poissons de la mer, tels des bêtes rampantes sans direction. L'agresseur les fait tous monter à l'hameçon, il les tire avec son filet, les prend dans sa nasse. Et puis encore, toujours en référence à l'envahisseur babylonien. Va-t-il maintenant pouvoir vider son filet pour encore tuer des peuples sans pitié? On peut comprendre l'audace d'Habacuc. Il a une trop haute opinion de son Dieu pour accepter que la violence aveugle soit sa réponse à l'injustice. Comme Abraham, devisant avec Dieu sur le chemin de Sodome et s'écriant à l'annonce du châtiment à venir, « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant ?» Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Habacuc présente ici la même objection. En quoi un déchaînement de violence, frappant indistinctement le juste et le méchant, est-il une réponse satisfaisante au problème du mal? Habacuc réclame une meilleure réponse, une réponse plus satisfaisante, plus radicale. Cette fois-ci, Dieu lui donne une réponse différente, qui commence ainsi. Écris une vision, grave-la sur des tables, de sorte qu'on puisse la lire sans effort. Car la vision est pour un temps à venir, elle aspire à son terme, et elle ne ment pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra. Oui, elle viendra, elle ne tardera pas. Voici, l'âme du méchant est vaine et tordue, mais le juste, par sa fidélité, vivra. Les derniers mots vous semblent sans doute familiers, dans une formule légèrement différente, « le juste par la foi vivra », à laquelle l'apôtre Paul et Luther à sa suite donneront une dimension extraordinaire. Que nous apprend cette réponse divine? Plusieurs choses. Tout d'abord, il n'est plus question de glorifier l'envahisseur babylonien, exécuteur supposé de la punition divine. Plus loin, il est même condamné sans détour. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. La violence, aveugle de surcroît, n'est donc pas une réponse acceptable à l'injustice. Ensuite, Dieu évoque une vision. Mais quelle est donc cette vision? On serait tenté de croire qu'elle est développée un peu plus loin, dans les 5 oracles de malheur qui font suite à notre texte et qui promettent pour l'envahisseur babylonien sanguinaire un châtiment exemplaire. Mais est-ce vraiment cela que le prophète est appelé à graver sur des tables? Car graver quelque chose, c'est l'inscrire pour les temps à venir. C'est témoigner de ce qui ne change pas quand tout change. De ce qui demeure quand le présent instable laisse la place à un futur tout aussi incertain. Il paraîtrait incongru de mettre à l'épreuve du temps la promesse de chute d'un envahisseur quelconque. Du temps d'Habacuc, comme du nôtre, les envahisseurs ne manquent pas. Peut-être que l'essentiel de la vision se trouve dans cette formule lapidaire, davantage digne d'être gravée pour toujours. L'âme du méchant est vaine et tordue, mais le juste, par sa fidélité, vivra.
Habacuc se plaignait à juste titre de l'injustice des méchants et de la violence de l'envahisseur. Mais il oublie un point important. C'est que la violence visible trouve sa racine dans une âme pervertie, tordue, gonflée d'orgueil. En d'autres termes, pour agir contre le mal, il ne suffit pas de traiter ses symptômes. Il faut agir sur sa racine profonde, celle présente au cœur de l'être humain, portée vers la vanité et la violence. Mais que peut faire Habacuc pour rendre droite l'âme du méchant ? Rien, précisément. Habacuc ne peut agir sur l'âme d'autrui. Ceci est en dehors de son champ de compétences. Sur ce point, le prophète est appelé à reconnaître ses limites et à laisser Dieu agir. En revanche, il peut faire quelque chose d'autre, quelque chose qu'il est le seul à pouvoir faire et qui ne dépend que de lui. Il peut vivre par sa fidélité. La formule « le juste par sa fidélité vivra » rend peu justice au texte hébreu. La particule, qu'on traduit ici par « au moyen de », peut tout aussi bien signifier « dans », à l'intérieur de. Et le mot traduit ici par « fidélité » dérive de la racine « aman », celle-là même qui donnera naissance à notre « amen ». Cette racine évoque en effet la fidélité, mais évoque surtout les sentiments de sécurité, de confiance et de constance. Elle renvoie vers la sérénité de celui qui sait que ses convictions sont pourvues d'une racine solide. Que nous apprend cette polysémie typiquement sémitique ? Eh bien, elle nous dit qu'il existe au moins 4 traductions, 4 lectures possibles pour cette formule. La première, le juste dans sa fidélité vivra, peut être lu comme un appel à demeurer fidèle aux élans de notre conscience, à nous accrocher à ce qui nous semble juste, à tenir bon lorsque la tentation du « à quoi bon ?» est la plus forte, lorsqu'on est tenté de céder, de rompre devant la justice. Rappelons-nous ici de la parole du Christ, confronté à l'angoisse d'une peine injuste. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, pourtant, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. La deuxième possibilité, le juste dont sa confiance vivra, évoque la quiétude d'une âme qui ne s'inquiète plus, car sa confiance est bâtie sur un roc éternel. La pluie tombe, les torrents viennent, les vents soufflent, mais cette confiance demeure et ne s'écroule pas. Et le Christ nous dit : ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La troisième possibilité, le juste par sa confiance vivra, nous rappelle que la confiance est un ingrédient nécessaire à la vie. Car que vaut la vie sans le ressort de l'espérance ? Et que pouvons-nous accomplir sans la pulsion de la confiance ? Est-ce à dire que seule la confiance suffit pour vivre ? Non, bien sûr. Mais en ces temps où la satisfaction des besoins matériels est érigée en principe nécessaire et suffisant, il est toujours bon de se rappeler que ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu, en qui nous plaçons espérance et confiance. Enfin, la quatrième et dernière possibilité, le juste par sa fidélité vivra. Car en demeurant fidèle à la parole, en répondant à son appel, nous possédons déjà notre récompense, nous participons déjà à une vie nouvelle, à cette vie proclamée à Pâques et portée vers l'avenir dont témoignent les évangiles et les écrits des apôtres. Oui, nous sommes sous le régime de la vie éternelle, de cette vie que nous possédons parce que le Christ lui-même l'a méritée par sa fidélité. Et c'est par sa fidélité que Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Vivre dans la fidélité, par la fidélité, dans la confiance et par la confiance. Et si c'était donc cela que nous sommes appelés à inscrire en nos cœurs et en nos mémoires? Et si c'était cela la vision qui nous est promise? La vision d'une foi qui rend libre, d'une foi qui nous affranchit de nos entraves et de nos liens, d'une foi qui nous rend animés d'une vie nouvelle, d'une foi qui fait de nous tous, de manière inconditionnelle, des filles et des fils de Dieu. Et cette vision, cette promesse-là, est gravée pour toujours.
Voici le moment de confesser la foi. Je vous invite à vous lever et à vous associer à cette confession de foi qui a été rédigée d'après la déclaration de foi de Barmen. La déclaration de foi de Barmen, c'est l'un des textes majeurs du protestantisme et même du christianisme du XXe siècle, lorsqu'une partie de l'Église protestante d'Allemagne, qu'on a appelée l'Église confessante, face à la prétention du régime nazi d'assujettir toute conscience et toute existence à son idéologie de mort, cette Église confessante a protesté de la seule, de l'unique souveraineté du Christ. Donc voici cette confession de foi inspirée par la déclaration de Barmen. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les hommes. Dieu, le Père, a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les hommes, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie, calomnie Jésus-Christ, car tout homme a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'homme, l'humain. Nous avons à faire nôtres les choix qu'il a faits, faire passer les personnes avant les richesses, la liberté avant la tranquillité, la vérité avant la propre opinion, le respect des autres avant l'efficacité, l'amour avant la loi. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille au lieu d'exclure, il respecte au lieu de condamner, il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Prenez place. Pour commencer le temps d'annonce de ce culte, en ce dimanche 14 avril, je voudrais d'abord remercier Madame Jacqueline Dornier, qui qui nous accompagne alors pour ce culte, qui est organiste à l'Église protestante unie de Pampon-Luxembourg et qui, en l'absence donc de nos musiciens familiers, membres du foyer de l'âme, eh bien, nous a accepté de venir les remplacer. Donc, merci Madame Dornier. Toujours pour aujourd'hui, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge est bien sûr ouverte, comme tous les dimanches. Donc vous pouvez, dimanche prochain et tous les autres dimanches, apporter soit ce qui est affiché dans l'entrée comme produit particulier, ou alors d'autres produits d'alimentation, hygiène ou entretien, mais des produits non périssables et pas en vrac. Après le culte, ce sera à la sortie. Celles et ceux qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore procurés les deux ouvrages publiés par le Foyer de l'âme récemment, Jean-Jacques Rousseau et Dieu et Spinoza et Dieu, pourront se les procurer et auprès de moi. Voilà, il faudra juste me les demander. Et encore après le culte, c'est le repas des JMJ, deuxième dimanche du mois. Nous nous rassemblerons évidemment autour de ce que chacun aura apporté pour partager, mais si vous n'avez rien, vous pouvez quand même venir. Et nous écouterons celles et ceux qui ont un livre à présenter. Voilà, un partage de bonnes lectures. Si vous n'avez rien lu, vous pouvez aussi bien sûr venir. Donc, JMJ, c'est jeunes et moins jeunes, c'est pour tous et toutes. Voilà. La semaine prochaine, alors c'est encore la période de vacances scolaires, donc il n'y aura pas de réunion sauf la pause spirituelle, comme tous les jeudis, jeudi 18, donc à 12h30 dans le temple. Et dimanche prochain à 10h30, le culte, bien sûr, qui sera assuré par notre ami Didier You. Merci Didier. Je voudrais aussi vous rappeler que vous pouvez trouver sur la table au fond du temple divers flyers et annonces concernant des événements à venir, particulièrement le 4 mai, l'événement organisé par l'Église protestante unie en région parisienne qui s'appelle Terre d'Espérance, qui aura lieu donc toute la journée à la paroisse de Boissy-Saint-Léger au bout du RERA, côté Est, et où donc seront proposées un grand nombre d'animations pour entendre, comprendre, partager sur ces questions d'écologie. Les chrétiens ont-ils quelque chose à dire, à penser sur ce thème de l'écologie? Eh bien, nous en saurons plus avec cette journée à laquelle sont invitées toutes les églises de la région parisienne. Donc, nous rencontrerons d'autres frères et sœurs dans la communion de l'Église et nous pourrons élargir nos regards et nos esprits. J'ajoute que non seulement notre amie Isabelle Veillé participe à l'organisation de cette journée, mais que notre amie Zélie tiendra un des stands de cette journée. Donc voilà, le foyer de l'âme est engagé dans cette journée du 4 mai, Terre d'Espérance. Ensuite, vous trouverez des affiches et des flyers aussi concernant la conférence organisée par l'Association culturelle de la Bastille, qui est l'association culturelle adossée au foyer de l'âme. Une conférence le 30 avril prochain à 19h30. Vous avez les affiches. Il y sera question de la place des mouvements féministes dans les mouvements pacifistes. Et ce sera fort intéressant, c'est notre ami Ben Kramer qui interviendra à ce sujet, et ce sera dans le temple, et cette conférence et l'échange sera suivi par un repas partagé, un peu comme sur le modèle des JMJ, dans la salle du deuxième, pour poursuivre l'échange et pour profiter aussi d'un moment convivial. Je voudrais aussi vous dire, de la part de l'entraide du foyer de l'âme, vous savez que depuis plusieurs mois, un peu plus d'un an, L'atelier informatique était assuré au sein de l'entraide du foyer de l'âme par Jean-Pierre Julien, que très peu d'entre vous connaissaient. Mais il venait depuis des années au foyer de l'âme. C'est lui qui assurait Acte Libre, à travers l'association Acte Libre, l'accueil et le groupe de parole de personnes en difficulté de vie. C'est lui qui avait proposé la création de cet atelier d'informatique pour les personnes qui avaient besoin d'être accompagnées dans ce domaine-là. Et Jean-Pierre Julien est décédé il y a une dizaine de jours. Il succombait à une très grave maladie qui l'a rapidement mené à la mort. Et un hommage rassemblera ses amis demain matin au Père Lachaise. Et j'y représenterai l'entraide et le foyer de l'âme. C'était un homme extrêmement bon, d'une très grande ouverture d'esprit, tout à fait dévoué. Et il manquera beaucoup, beaucoup à toutes les personnes qui l'ont connu. Ceux qu'il avait accompagnés, celles qu'il avait accompagnées, et puis toutes celles qui ont aussi eu la chance de travailler avec lui. Donc voilà, je voulais le partager avec vous, vous en faire l'annonce et confier à votre pensée, à votre prière, les proches de Jean-Pierre qui sont dans le deuil. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Alors voici le moment de l'offrande, de votre solidarité dans ce geste particulier de l'offrande, votre solidarité envers le foyer de l'âme, envers l'Église dont il fait partie et envers la mission de l'Église d'annoncer l'Évangile. Et pendant cette offrande, nous chanterons au cantique 272, « Ô mon Père, ma prière ». Je vous invite donc à vous lever pour chanter au 272. Je vous invite à vous asseoir et à nous rassembler dans la prière d'intercession. Éternel Dieu, nous te rendons grâce parce que ta parole nous communique ce dont nous avons besoin pour vivre, parce qu'elle éclaire le dedans et le dehors de notre vie et la réalité de notre monde. Alors nous te prions pour être vivants dans ce monde, vivants de confiance et d'espérance, vivants de ta confiance et de ton espérance. Dans les ébranlements, les convulsions et les confusions, puissions-nous, par ton esprit, nous tenir non dans la peur, mais dans la justice, et résister à ce qui, en nous et autour de nous, nous pousse à la fuite ou au déni. Aide-nous à vivre en disciples du Christ, à faire œuvre de compassion et d'hospitalité, à parler en esprit et en vérité, à veiller et à aimer là où nous sommes. Nous t'en prions. Suscite des ouvriers de justice et de paix qui maintiendront dans les embrasements du monde le témoignage de l'humanité que tu aimes et l'écoute de sa vocation. Et là où la violence et la haine causent souffrance et mort, nous allons dans la prière, en solidarité, en communion avec nos frères et sœurs broyés, humiliés, défaits. Nous ne serons pas tranquilles, mais nous serons vivants. Et nous prions encore avec les mots que Jésus-Christ nous a enseignés, que nous disons à voix haute ou dans notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Et cette exhortation, elle nous vient du 7e siècle, un texte d'Augustin d'Hippone, père de l'Église, à partir du psaume 85 et du psaume 146. La compassion et la vérité s'unissent, la justice et la paix s'embrassent. Pratique la justice et tu auras la paix. Il faut que la justice et la paix puissent s'embrasser. Si tu n'aimes pas la justice, tu n'auras pas de paix, car ces deux s'aiment et s'accordent. Celui qui réalise la justice trouve la paix. La paix entoure la justice. Elles sont amies. Il n'y a personne qui n'aime pas la paix. Mais tout le monde n'a pas envie d'agir justement. Si tu demandes à quiconque « Aimes-tu la paix ?», l'humanité tout entière répondra d'une seule voix « Oui, bien sûr, je l'aime, je l'espère, je la souhaite. » Mais pour avoir la paix, il faut encore aimer la justice, car toutes deux sont amies et elles s'embrassent l'une l'autre. Amen. Vous qui êtes les messagers du Père, dans le Christ ressuscité, Dieu vous rend rayonnant et fraternel dès maintenant et à jamais. Amen.